Police, les urgences, je vous écoute.
On est sur la grande route qui quitte Malheuil, tu vois.
Quelle est l'urgence, madame?
Je sais pas.
Je vais devoir raccrocher, désolée.
Non, 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 s'il te plaît.
Est-ce que vous êtes libre de parler?
Non.
Vous êtes en danger?
Oui. Ok, restez avec moi. On va envoyer quelqu'un.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est arrivé.
Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en préambule sur ces charges qui sont graves?
J'ai rien fait.
J'aurais pas dû monter dans cette voiture.
Quitter la nuit, un film de Delphine Girard, sorti en avril 2024. L'histoire d'une femme qui, une nuit, appelle la police, elle est en danger. Anna prend l'appel, un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves. Un parcours judiciaire, mais aussi un parcours de vie, celui d'une femme qui a subi un viol et qui se bat pour le faire reconnaître. Quitter la nuit, c'est le film qui a été diffusé le 25 novembre dernier au cinéma Eden Studio à Briançon, à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Un événement organisé en collaboration avec le Centre communal d'action sociale de la ville de Briançon, le Centre social intercommunal du Briançonnais et Fréquence Mistral. Avant la séance se tenait un forum avec les acteurs concernés présents sur le territoire, une chorégraphie proposée par les élèves de hip-hop, etc. Et cette séance a été suivie d'un échange entre le public et des acteurs du territoire, échange que nous avons enregistré et sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui dans cette émission spéciale. Pour parler de ces questions, nous sommes avec le CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Hautes-Alpes. Je le dis une fois au début, ensuite on parlera simplement du CIDFF. Et au sein du CIDFF, nous avons le plaisir d'accueillir sa directrice Angélique Lambert et sa coordinatrice Pôle Violence, Julie Moulin. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue et merci d'avoir répondu à cette invitation. Peut-être pour commencer rapidement, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le CIDFF ?
Donc le CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Hautes-Alpes, nous sommes une association avec un agrément d'État rattaché à une fédération nationale dont le siège est à Paris et une fédération régionale dont le siège est à Marseille. Nous avons plusieurs missions. La première mission, c'est l'accès au droit pour toute personne. La deuxième mission, qui est une grosse activité sur le territoire des Hautes-Alpes, correspond à l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Nous accompagnons aussi les victimes sur l'insertion sociale, personnelle et professionnelle. Et nous avons une mission de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Donc c'est à ce titre que vous êtes aujourd'hui ici pour ensemble explorer les différentes questions qui ont émergé du public lors de cette fameuse séance du 25 novembre 2024. Déjà sur place étaient présents plusieurs acteurs du territoire. Il y avait des membres du planning familial, Clara et Zoé, Marion Malfatto du centre de santé sexuelle de Briançon et Olivier Persicot, enquêteur, plaintier et agent de prévention au commissariat de Briançon. Nous avons essayé de respecter le fil des échanges, distinguer plusieurs thématiques en sélectionnant des questions et des réponses. Et nous tâcherons avec vous, toutes les deux, Angélique Lambert et Julie Moulin, de compléter, d'élargir, de détailler certains points évoqués pendant ce débat. Et pour introduire cette émission, nous nous sommes entretenus avec Annie Astier-Conversé, adjointe au maire de la délégation Solidarité. Elle a inauguré l'événement au Centre social intercommunal le 25 novembre et elle a été notamment active dans la création à Briançon d'un appartement d'accueil de femmes qui ont subi des violences. Elle le mentionne dans cette interview, on l'écoute tout de suite. Quel est votre rôle dans l'organisation de cet événement ?
Alors, mon rôle est un tout petit rôle. L'événement est grandiose, je pense. Pour une première, je trouve que ça a été très, très bien mené. Donc, ça a été mis en place par le Centre social intercommunal. Et j'ai été invitée à participer à travers le CCAS de Briançon. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a eu une très, très belle dynamique et j'en suis très fière.
Pourquoi vous, en particulier, avez-vous été invitée ?
Alors, j'ai été invitée pour présenter cet événement, d'une part parce que je suis adjointe aux solidarités à la mairie de Briançon et qu'on a travaillé avec le centre social intercommunal. Je suis aussi élue dans le cadre de l'intercommunalité, donc c'est aussi un tout petit peu mon domaine. Et puis, j'œuvre personnellement, entre guillemets, à travers le CCAS, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que les violences faites aux femmes et comment essayer d'en sortir. Voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Avez-vous une idée de la situation dans le Briançonnais sur ce sujet, des violences faites aux femmes ?
Alors, je dois dire que je dois avoir une très mauvaise idée, parce que lorsque j'ai mis en place l'appartement qui leur est dédié pour pouvoir prendre du recul et sortir des foyers dans lesquels elles sont en danger, je pensais pour ma part que c'était surtout de la communication que j'allais faire et que si j'avais une femme par an, ce serait le maximum et peut-être même pas une par an. Et là, je suis à plus de 3 par an. Avec leurs enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait pas tout à fait 3 ans et on est à 9 femmes qui sont passées par cet appartement, accompagnées de 10 enfants. Et donc je me dis que je n'avais pas, maintenant mon analyse s'affine, mais je n'avais pas la bonne analyse parce que j'étais largement en dessous de ce que je pensais qui se passait sur Briançon, qui est quand même une petite ville.
Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous voulez répondre, vous pouvez répondre, mais pourquoi ce sujet en particulier vous tient à cœur et pourquoi vous démenez sur ces projets comme cela ?
Alors, je ne suis pas une femme battue, donc autant dire que ce n'est pas du tout ça. Non, j'ai travaillé comme journaliste une partie de ma vie et dans le juridico-social une autre partie de ma vie. Et du coup, j'ai pu voir des cas comme ça. Au départ, quand j'étais plus jeune, je pensais que tout ça allait disparaître très rapidement. Et je me suis aperçue en vieillissant que non, il n'y a rien qui se passait. Et bien qu'il y ait des choses qui se fassent, ben on s'aperçoit qu'on n'avance pas. Et c'est pour ça que dès que j'ai été élue, je me suis dit, il faut au moins que j'apporte ma pierre à l'édifice. Voilà.
Merci. Il y a 2 points sur lesquels j'avais envie de vous faire réagir. Le premier, c'est la fin de son intervention. Le fait qu'elle ait l'impression que rien n'a changé malgré qu'on en parle depuis finalement des années. Un mot là-dessus ?
Alors si, heureusement, certaines choses ont changé. Alors forcément, quand on voit le nombre de victimes, on se dit il reste beaucoup de chemin à parcourir et de travail à faire. Mais ce qui a changé en tout cas ces dernières années, c'est la libération de la parole pour les femmes qui sont victimes. Effectivement, le fait de communiquer de plus en plus dans les médias, que le gouvernement aussi se saisit de cette thématique. Il y a eu le mouvement MeToo aussi, ça a permis de libérer la parole et de donner la possibilité de façon, on va dire, peut-être un peu plus... Alors facile, c'est vraiment pas le mot, parce qu'il n'y a rien de facile quand elles viennent parler de ce qu'elles vivent, mais en tout cas, voilà, une libération de la parole, et au niveau à la fois du grand public, peut-être un arrêt sur cette thématique, à se dire, bah oui, effectivement, ça existe, et ça peut toucher toutes les personnes, et à savoir des personnes que je côtoie en proximité. Donc ça, voilà, ça a facilité la mise en mots de cette thématique. Et au niveau des professionnels, effectivement, des montées en compétences au niveau des formations. Voilà ce que je peux dire sur cette question.
Oui, et puis sur ce que vous disiez sur le fait que ça peut toucher tout le monde dans tout terrain, effectivement, comme le dit Annie Astier-Conversé, on est sur un territoire où parfois on peut se dire qu'on est un peu protégé, on n'en entend peut-être pas tant parler, contrairement à des grandes villes, à Paris. Et pourtant, c'est là, vous êtes là, au CIDFF, il y a cet appartement que vous accompagnez aussi, il me semble.
Oui, effectivement, on intervient sur l'accompagnement des femmes qui transitent par ce logement d'urgence, les femmes et les enfants.
Et donc, j'imagine que votre présence ici est justifiée, il se passe des choses aussi sur ce territoire, ça nous concerne aussi.
Alors, il se passe des choses sur ce territoire, effectivement. Vous parlez des grandes villes. Alors, la violence, elle touche alors déjà toutes les catégories sociales. Et puis, elle touche les villes, mais aussi les milieux en ruralité. Et la ruralité vient complexifier, finalement, la prise en charge et le repérage des victimes de violence, puisqu'effectivement, aujourd'hui encore, sur notre territoire des Hautes-Alpes, nous n'arrivons pas à toucher tous les les petits villages, toutes les, voilà, potentiellement, de nombreuses victimes sont encore isolées et n'ont pas accès aux droits et n'ont pas accès à l'accompagnement dont elles pourraient avoir besoin.
Et pour compléter le propos d'Angélique, il y a également la question du petit territoire lié au fait que elles sont, si une victime passe la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, elle va facilement être identifiée par les voisins, par les commerçants locaux. Et il y a aussi cette crainte du coup d'aller demander de l'aide dans ces situations-là face au fait que les habitants, les gens autour vont la voir effectuer cette démarche.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, pas les te faire en où je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Pas les te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Bonsoir. Moi, j'ai accompagné une amie qui a été victime d'un viol dans son début de parcours judiciaire. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment un parcours du combattant. Déjà parce qu'il faut au début qu'elle arrive à surmonter son traumatisme et à faire un dépôt de plainte qui soit cohérent. Et effectivement, vous l'avez souligné, c'est pas si facile parce qu'il peut y avoir des trous de mémoire suite au traumatisme. Et donc, déjà, au niveau de la charge de la preuve, c'est pas évident. Et puis, par ailleurs, il y a de nombreux détails intimes qu'on n'a pas forcément envie non plus de donner ou de se rappeler. Or, ces détails sont indispensables si on veut que la plainte tienne debout. Ensuite, il faut aussi surmonter le traumatisme d'aller se faire examiner dans un hôpital au service de médecine spécialisée, ce qui là aussi n'est pas forcément un moment très sympa. Ensuite, vous allez être convoqué par un expert psychologue auprès des tribunaux qui va vérifier, qui va se faire une opinion sur la sur la validité de votre discours. Et ça aussi, c'est encore une épreuve, parce que ça vous replonge dans ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Bon, et ensuite, j'imagine que quand on se retrouve aussi devant un juge d'instruction ou devant le tribunal, tout ça, c'est des étapes qui sont très difficiles à vivre. Donc, ma question, c'est à partir du moment où il y a un dépôt de plainte, quel est le pourcentage du dépôt de plainte à l'origine qui se termine par une condamnation pénale? Ça ne doit pas être gigantesque.
Beaucoup de points importants dans ce témoignage et cette grande question, la fameuse question donc du nombre de dépôts de plainte qui amène à une condamnation. On répondra à cette question plus tard. J'aimerais d'abord qu'on se concentre sur le parcours. Donc ce monsieur en parle, donc le parcours judiciaire, on va évoquer aussi dans cette émission ses limites et les autres suivis qui sont possibles pour une femme. Est-il bien présenté ici, ce parcours, Angélique Lambert et Julie Moulin? Y a-t-il d'autres étapes à ajouter, des détails ou de ce que vous connaissez? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Alors, effectivement, le parcours, donc dépôt de plainte, le parcours, la consultation médicale, alors oui, ça retrace. Après, je dirais qu'il existe pas forcément un parcours type, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de la victime, de la situation, ça nécessite vraiment un accompagnement qui va être individuel finalement au regard de chaque victime et de chaque situation. Donc on a parfois des victimes qui vont à la plainte des mois voire des années après, puisqu'effectivement il y a ce besoin d'accompagnement, de vraiment travailler sur ce qui s'est passé et d'amener la victime à être prête à aller déposer plainte. La question prioritaire de la consultation médicale, elle se pose, puisqu'effectivement, pour les violences aussi psychologiques, le fait d'aller voir un médecin qui va rédiger un certificat médical qui va attester de l'état finalement et des troubles engendrés par la situation de violence avec la prescription d'ITT.
ITT, on peut expliquer ?
Interruption temporaire de travail, qui ne correspond pas du tout à un arrêt de travail, souvent. Voilà, pour le grand public, on fait le lien avec un arrêt de travail, un accident de travail. C'est pas du tout ça. C'est à un moment donné un certificat qui va attester de conséquences finalement sur l'état de santé de la victime, et ça se comptabilise en nombre de jours en fonction de la gravité, du degré des violences.
Et effectivement, il y a deux types d'examens médicaux finalement. Il y a l'examen médical à l'initiative de la victime qui va aller faire constater par le médecin de son choix à l'instant T dans quel état physique et psychologique elle se trouve. Et il y a, je pense, ce dont parle le monsieur là dans le témoignage, l'examen médical à la demande de la justice, où là, effectivement, la victime va être orientée vers un médecin légiste qui va pouvoir établir un certificat médical répondant aux attendus de la justice et des démarches judiciaires qui sont en cours.
Donc il y a deux démarches possibles, enfin il existe deux parcours autour de cet examen médical.
Tout à fait. Et pour compléter la question de la visite médicale dans le cadre d'une victime de violence, c'est un vrai sujet, et notamment sur notre territoire, puisque sur le territoire des Hautes-Alpes, comme d'autres territoires d'ailleurs, nous n'avons pas de médecin légiste et que nous faisons appel dans l'accompagnement aux victimes souvent à des médecins généralistes, des médecins de ville, également les médecins des urgences. Et parfois, nous avons certains médecins de ville qui refusent d'établir un certificat médical parce que ça engage une responsabilité et que les médecins ne sont pas spécifiquement formés à la rédaction de ces certificats.
Il y a d'ailleurs eu cette question pendant le ciné-débat d'une personne dans le public qui demandait si c'était possible de les former pour qu'ils aient les bons documents, puisque c'était une question assez générale. Olivier Persicot, qui était présent, donc enquêteur au commissariat de Briançon, répondait à la même chose que ce que vous venez de dire, que c'est à Grenoble qu'il y a des médecins légistes et que sinon, pour les médecins, donc en l'occurrence dans le Briançonnais, c'est des formations en interne et que c'est, si je l'ai bien compris, à la demande en fait des médecins eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Et juste pour rebondir, on disait en début d'émission que beaucoup de choses restaient à faire et qu'il y avait une vraie volonté, et notamment sur notre territoire, effectivement, la question de la présence d'un médecin légiste et est d'actualité depuis voilà, quelques années, parce que c'est compliqué, mais c'est une vraie volonté du territoire, notamment voilà, une vraie volonté du parquet et une vraie volonté aussi au niveau de l'hôpital. Donc,
On parlait des deux démarches qui amenaient à l'examen. Dans tout cas de violence, là on parlait du viol parce que dans le film c'est ce type là de violence qui est présent, mais ça peut être le cas pour tout type de violence.
Alors oui, bien sûr, pour tout type de violence, des violences physiques, les violences sexuelles, il n'y a pas que le viol, hein. Les violences psychologiques aussi, effectivement la question du certificat médical, elle se pose puisque c'est le certificat médical qui va venir attester des conséquences et du préjudice sur lequel la justice pourra s'appuyer pour après aller voilà, dans les poursuites et dans les condamnations.
Alors Julie Moulin et Angélique Lambert, j'aimerais vous faire écouter une question qui vient du public sur cet examen.
Moi je voulais souligner un truc que j'ai vu dans le film, c'est la manière dont on conseille à la femme qui vient de porter plainte de juste après aller à l'hôpital et on lui conseille de pas se laver. Et je trouve qu'il y a une déshumanisation qui fait froid dans le dos, la manière dont qu'on doit se sentir comme une preuve, quelque chose qu'il faut pas toucher parce qu'il doit y avoir des empreintes ou des traces, qui doit être terrifiante et ce qui explique sûrement la raison pour laquelle elle n'est pas retournée le lendemain à la première heure, et qui du coup fragilise son dossier, mais qui est, je pense, terriblement dur à affronter dans ce moment-là.
Oui, pour contextualiser, dans le film Quitter la nuit, donc la femme après cette nuit donc va porter plainte, est prise en charge par la police, on lui demande de revenir le lendemain et finalement elle ne va pas, elle n'y retourne pas pour cet examen et elle prend une douche. Alors vous avez peut-être une réaction.
La difficulté, c'est qu'on se place sur deux points de vue et deux endroits différents. Effectivement, il y a la question de la victime qui est primordiale, hein, sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et comment l'accompagner dans cette épreuve. Et il y a le point de vue, ou en tout cas le côté de la justice. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais on entend souvent dire qu'il y a peu de poursuites et de condamnations. Aujourd'hui, la justice a besoin de preuves et de preuves matérielles pour engager des poursuites et après arriver à une condamnation. Donc c'est difficile de mettre sur le même plan, le même niveau, à la fois la victime qui vit cette épreuve et à la fois les besoins de la justice pour aller à la poursuite et à la condamnation. Donc forcément, il y aura toujours voilà, les deux côtés et qui finalement ne pourront jamais trouver finalement d'apaisement. Alors l'apaisement, il doit se trouver dans la façon dont les professionnels vont amener tout ça et la façon dont les professionnels vont récupérer effectivement l'épreuve, mais c'est complexe.
Oui, c'est revenu maintes fois et on va en parler, c'est revenu aussi sur le moment du dépôt de plainte, de l'audition. Par contre, avant de passer justement à ce moment de l'audition, Olivier Persicaud insistait, lui, en tant que policier, sur la différence entre l'examen qui n'amène pas forcément à un dépôt de plainte. Mais si on veut un dépôt de plainte, c'est mieux d'avoir fait cet examen. Donc lui, il l'invitait en prenant en compte l'aspect psychologique, mais insistait quand même sur l'importance de cet examen. C'est quelque chose que vous partagez ?
Alors oui, peu importe le choix de la victime, c'est-à-dire voilà, il se passe l'agression, la victime peut ne pas être dans une démarche de dépôt de plainte, puisqu'effectivement il y a la question là de la sidération, la question du choc, du traumatisme, on voit nous dans notre quotidien au CDFF que accompagner une victime de violence, ça prend des semaines, des mois, voire des années. Et le dépôt de plainte peut arriver effectivement en décalé. Pour autant, c'est nécessaire et indispensable, puisqu'on vient de dire que la justice avait besoin de preuves. Et qu'effectivement, si au moment où l'agression se produit, il n'y a pas de recueil de preuves, bon ben, on imagine bien que le dépôt de plainte et après les possibles poursuites vont être difficiles.
Et donc, maintenant, sur le dépôt de plainte, l'autre étape qui a vraiment posé question dans le public, c'est l'audition. Alors, je vous propose d'écouter une question et les réponses apportées, on rebondira dessus après.
C'est difficile un peu de s'exprimer comme ça à chaud, mais ça me ramène à une histoire, une amie à moi qui a été victime de violence et qui n'a pas forcément eu droit au même encadrement de la part de la police, je crois. Ouais. Là, c'est, je vais pas dire que c'était bien, mais elle est quand même. Interrogée donc par une femme, c'était pas le cas de mon amie, qui est cette femme-là dans le film est assez sèche et droite, donc forcément il y a l'impartialité et tout ça, mais dans le cas de mon amie, c'était visiblement, elle était interrogée par une personne qui n'avait pas de formation, et je trouve que ça c'est pas représenté dans le film.
Actuellement, il y a une formation obligatoire depuis. Un an ou deux, je crois, pour les policiers, pour réagir à ça, à avoir cet entretien avec les personnes, les relations qu'on peut avoir au moment des interventions, parce que là, il n'y a pas eu d'intervention à domicile, mais ça arrive très souvent. Et maintenant, tous les policiers ont l'obligation d'avoir cette formation. C'est assez récent, effectivement. On peut, effectivement, d'autre part, demander est-ce qu'il y a un policier femme qui viennent nous entendre. Après, il y a des possibilités techniques ou pas d'avoir du personnel féminin disponible ou pas au moment où la personne vient. Mais maintenant, on développe quand même ces réponses pour être au plus près des préoccupations des victimes.
Ce qui est aussi possible quand on va déposer plainte, c'est de pouvoir être accompagné par une personne de son choix, que ça soit un avocat, une avocate ou une personne avec qui on se sent confortable, pour aussi avoir un soutien moral, émotionnel. Et c'est aussi possible de préparer sa plainte en appelant le numéro de téléphone Viol Femme Information, si je ne me trompe pas. Et donc, sur ce numéro de téléphone, avec un écoutant ou une écoutante plutôt, c'est possible d'être préparé au dépôt de plainte et d'être informé des questions qui vont être posées, parce que les questions sont souvent très précises. Ça peut être compliqué de revenir sur les faits qui sont vécus, donc d'où l'intérêt aussi de pouvoir préparer la plainte avec une personne qui est à l'écoute et de pouvoir écrire aussi les réponses. Enfin, voilà, il y a aussi cet accompagnement-là qui peut être possible.
On a entendu deux réponses. Le premier, c'était la réponse de Olivier Persicot, donc encore une fois enquêteur au commissariat de police, puis Marion Malfatto du Centre de santé sexuelle. Alors, vous avez envie de rebondir, de compléter peut-être ?
Alors, oui, rebondir. Effectivement, la question de la formation, elle est indispensable. Alors oui, il y a des formations qui sont obligatoires pour les policiers et pour les gendarmes. C'est récent. Donc nous, on constate au quotidien, quand on accompagne les victimes au dépôt de plainte, effectivement que certains policiers gendarmes sont formés, d'autres pas encore ou pas suffisamment, et on voit vraiment la différence. Après, il y a toujours un écart entre la théorie et la pratique. On a des réunions plusieurs fois dans l'année avec le commissariat et avec la gendarmerie. Alors, on va distinguer les deux, puisqu'effectivement, sur la gendarmerie, il existe la maison de protection des familles, qui sont quatre gendarmes vraiment formés et on va dire spécialisés sur la question des violences conjugales et de façon façon plus généraliste les violences intrafamiliales. Donc là, on va être sur une autre prise en charge, un autre regard. Au niveau du commissariat, on a des réunions plusieurs fois dans l'année où effectivement on vient aborder ce qui fonctionne, mais aussi les points d'amélioration nécessaires, puisque aujourd'hui sur notre territoire, la question du manque d'effectifs au niveau du commissariat vient mettre un frein finalement, on va dire, à des bonnes pratiques et même des bonnes volontés parfois d'accompagner les victimes. Donc c'est un vrai sujet. Ça reste très difficile, très complexe, avec vraiment des améliorations nécessaires à mettre en place. Après, c'est la question aussi de la personne qui va être disponible au moment où on arrive avec la victime.
Oui, les femmes, du coup, il parlait des femmes.
Oui.
Des femmes sont disponibles dans tous les commissariats.
Alors, pas dans tous les commissariats, pas à tous les moments. Alors, on essaie d'organiser les dépôts de plaintes avec des prises de rendez-vous, c'est pas toujours possible. Et après, je me permettrai de dire, sans aucun jugement, que parfois, une femme qui va recueillir la plainte peut être bien plus maladroite qu'un monsieur, un homme, qui va être vraiment formé et sensibilisé. Je ne ferai pas une catégorisation comme ça, homme-femme, sur la plus-value pour recueillir la plainte. C'est plus complexe que ça. Et il y a beaucoup d'autres choses annexes qui viennent se greffer.
Et sur l'accompagnement, la préparation de l'audition.
Alors, sur la préparation de l'audition, nous, on va proposer de manière systématique aux victimes de préparer notre venue au commissariat. Très concrètement, ça va être, donc, ce sont des rendez-vous qui sont proposés à la victime avec une de nos accompagnatrices pour les victimes de violences. Elles vont reprendre finalement la trame type des dépôts de plainte pour les violences, faire lecture aux victimes de la nature des questions, très concrètement, des questions qui vont lui être posées, proposer à la victime de réfléchir en amont du dépôt de plainte aux réponses, parce que il va falloir qu'elle soit en mesure d'être précise dans les faits, dans le déroulé des faits, essayer de se souvenir des horaires, des personnes présentes, des éléments de détail. Et face au traumatisme qu'elle a subi, ça peut demander un temps de préparation pour réactiver la mémoire, pour accepter de se souvenir. Pour se souvenir, s'effondrer en larmes au CIDFF, dans un endroit qu'elle connaît, qu'elle sait être sécure et sécurisant, avec une professionnelle qu'elle connaît, et être en mesure, le jour du dépôt de plainte, d'apporter des réponses le plus précises possible, afin qu'ensuite le système judiciaire puisse se mettre en route. Et on va également proposer aux victimes de les accompagner physiquement le jour du dépôt de plainte, c'est-à-dire que on va aller avec elle se présenter au commissariat. La majeure partie du temps, on est avec elle lors du dépôt de plainte. Il arrive par moment qu'on soit encore laissé à la porte des bureaux d'entretien par les agents du commissariat.
Alors que c'est un droit.
Mais ça fait partie de ce qu'on disait, l'aspect formation, etc. Notre présence est le plus souvent... Enfin, c'est ce que nous disent en tout cas les victimes, ça permet de les rassurer. On n'intervient pas pendant ces auditions, puisque c'est pas à nous d'intervenir. Par contre, on est là physiquement, on peut réconforter avec un regard, avec une main posée sur l'épaule. On peut encourager par le regard aussi la victime à parler. Les seuls moments où on s'autorise à intervenir, c'est quand on sent que sur le plan émotionnel, ça devient trop dur pour la victime. Étant donné qu'on la connaît un minimum, on va pouvoir identifier et s'autoriser à dire que là, il y a besoin d'une petite pause.
D'accord. Marion Malfatto parle d'un numéro qu'on peut appeler pour être accompagné.
Je pense que elle parle du 3919, où effectivement, donc c'est une ligne gratuite où des professionnels, des gens formés peuvent recueillir la parole des victimes et rassurer, orienter aussi, leur donner en fonction de leur département, secteur, leur donner des adresses, des noms d'associations qui peuvent accompagner les victimes. Donc nous, sur le territoire, donc le CIDFF, mais il y a aussi l'association Mediavic qui aide aux victimes généralistes, qui effectivement peut être à même d'accompagner, de recevoir des victimes.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête. Dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête. Dans ma tête. N'insiste pas, les temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission spéciale dédiée au parcours des femmes victimes de violences. Une émission, je le rappelle, réalisée après l'enregistrement des échanges qui ont suivi la diffusion du film « Quitter la nuit » à l'Eden Studio à Briançon le 25 novembre 2024. 25 novembre qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Nous sommes avec Angélique Lambert et Julie Moulin du CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Hautes-Alpes. J'avais dit que je le dirais qu'une fois, c'est la deuxième quand même pour qu'on s'en souvienne bien. Nous avons parlé du parcours judiciaire, de ses enjeux, et nous allons désormais parler des limites de ce parcours et avant tout des limites, des difficultés plutôt, de cette démarche pour les victimes. Ce qu'on observe tout d'abord et qui a été évoqué pendant le ciné-débat, on n'avait pas les chiffres, mais c'est qu'il y a quand même peu de dépôts de plaintes par rapport au nombre de violences. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, cette question-là ?
Bah, ce qu'on observe, nous, dans l'accompagnement, c'est que déjà, tant que la femme est sous emprise, elle ne va pas être en mesure d'aller déposer plainte. Ça, de toute façon, voilà. Ensuite, quand elle est en mesure d'aller déposer plainte, il va y avoir tout ce qu'elle va projeter autour de ce dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi travailler avec elle sur le fait que le dépôt de plainte n'est pas une finalité en soi. Également, l'informer sur les conséquences que peut avoir ce dépôt de plainte, non pas pour lui faire peur et pour l'empêcher d'aller déposer plainte, mais pour qu'on puisse anticiper avec elle les conséquences, à savoir par exemple si on évalue avec elle qu'elle est déposée plainte, la met en danger le jour même de rentrer à son domicile et de se confronter à la personne qu'elle désigne comme étant l'auteur, on va anticiper avec elle ce dépôt de plainte et préparer avec elle un départ du domicile afin de la protéger et de ne pas la mettre plus en situation de danger.
Je rebondis rapidement là-dessus. Il y a eu cette question pendant le témoignage, je n'ai pas ici l'enregistrement, mais des mesures de protection qui pouvaient être mises en place dans le cadre d'un dépôt de plainte. Peut-être un mot là-dessus rapidement.
Sur les mesures de protection ?
Oui, lorsqu'une femme va déposer plainte, ce qui est mis en place et encadré par la police.
Alors, dans l'immédiat, donc le fait de quitter le domicile, d'être mise à l'abri avec ou sans enfants, puisque parfois elles ont des enfants, souvent d'ailleurs. Après, dans l'immédiateté, il ne va pas y avoir de réponse globalement, la plupart du temps, immédiate, puisqu'effectivement, il existe des outils de protection, comme une ordonnance de protection via le juge des affaires familiales. Il peut y avoir la remise d'un téléphone grave danger. Il peut y avoir, mais tout ça, ça prend du temps. Le bracelet anti-rapprochement, mais ce n'est pas le jour du dépôt de plainte. C'est-à-dire que là, ça engage d'autres process, d'autres procédures judiciaires qui prennent quand même, pour certaines, elles sont plus rapides, pour d'autres, un peu plus de temps.
Ce n'est pas une protection immédiate, alors. Je reviens sur l'emprise. Vous en parliez, Julie. Le public a posé cette question. Que fait-on des femmes sous emprise qui ne vont pas, ne peuvent pas, ne veulent pas porter plainte ?
On va les accompagner dans ce qu'elles ne veulent pas faire. C'est-à-dire que nous, on intervient bien évidemment avec l'accord et à la demande de la victime et on l'accompagne dans ce qu'elle souhaite. Si elle ne veut pas déposer plainte, on n'ira pas travailler le dépôt de plainte avec elle. En tout cas, pas à ce moment-là. Donc, notre travail d'accompagnement, ça va être effectivement de démontrer à la victime qu'on est là, qu'on est à son écoute, qu'on la croit, qu'on respecte sa temporalité, que si aujourd'hui elle veut préparer un départ, on va préparer un départ du domicile. Si dans 2 jours elle veut plus, on arrête. L'accompagner dans ses allers-retours, ne jamais être dans le jugement et rester disponible et à l'écoute finalement. Et c'est avec le temps, petit à petit, que les accompagnatrices pour les victimes de violences conjugales, mais aussi la psychologue du service, mais aussi la juriste qui va permettre d'apporter un début de réponse sur les possibles au niveau juridique. C'est tout ce travail pluridisciplinaire d'accompagnement par le CIDFF en respectant la victime, en étant à son écoute et vraiment, on la croit. Nous, on n'est pas enquêteurs. On n'est pas là pour vérifier si c'est vrai. C'est pas notre boulot. Donc, on fait avec ce qu'elle nous donne comme information et l'accompagner dans tous ses allers-retours en équipe pluridisciplinaire. On a pu observer que c'est ce qui va petit à petit aussi permettre à la victime de mettre des mots de plus en plus précis sur ce qu'elle vit. Et c'est ce qui va aussi lui permettre petit à petit d'émettre des souhaits nouveaux.
Moi, je souhaiterais rajouter que là, on parle voilà, du côté victime, mais ce qui rajoute aussi une vraie difficulté, et c'est un vrai parcours du combattant hein, pour les victimes, quand à un moment donné, elles veulent mettre des mots et être reconnues comme victimes, c'est qu'il faudrait alors réserver une autre émission, bien sûr, mais sur toute la question de la stratégie des auteurs. Parce qu'effectivement, une femme, quand elle vient dénoncer, de prime abord, forcément, la personne qui est nommée comme étant auteur va répondre. Et donc, effectivement, dans tout ce processus, la victime, elle est souvent malmenée. On remet sa parole en doute. C'est très complexe, en fait.
Oui, c'est important d'aborder ce sujet, même si, effectivement, on n'aura pas le temps dans cette émission de l'approfondir. C'est une thématique qui est présente dans le film, Quitter la nuit, le regard, en fait, de l'acteur sur ce qui s'est passé, en fait, qui est complètement différent et qui perturbe pendant tout le film. Là, je parle du film, mais on ne sait pas s'il y a eu viol ou pas. Et le doute perdure pendant tout le film, et c'est la puissance du film aussi.
Mais c'est un doute qu'on retrouve aussi chez les victimes. C'est-à-dire que là où les auteurs, quand on parlait des stratégies des auteurs, c'est que la victime va venir jusqu'à douter des violences qu'elle subit, elle va minimiser. Et donc c'est tout ce travail-là, nous aussi, qu'on fait avec les victimes pour mettre en mots la réalité de ce qu'elle vit.
Ça m'amène à une question qui a été posée par une personne dans le public sur les différents types de violences. Il y avait une personne qui pose la question de la distinction entre la violence physique et la violence psychique. On a un peu parlé de l'emprise. Une autre lui demande ce qu'il en est pour le harcèlement de rue. Marion Malfatto, qui était donc présente ce jour-là, parle du continuum des violences. Je vous propose d'écouter rapidement.
En effet, il n'y a pas une seule forme de violence, il en existe des multiples, que ça soit, comme on a vu dans le film, les violences sexuelles, mais aussi les violences psychologiques, économiques, les violences administratives, le fait par exemple de récupérer les papiers d'identité d'une personne, enfin voilà, il y a tout un ensemble de violences et on va dire tout un, ce qu'on appelle le continuum des violences aussi.
Qu'en est-il alors de ce continuum des violences et de à partir de quand est-ce qu'il est légitime, entre guillemets, pour une femme d'estimer que on peut porter plainte ou en tout cas on subit des violences? Comment savoir?
La question de la légitimité, elle est complexe parce que le curseur, il peut être différent d'une personne à l'autre. Finalement, la question de la violence, elle vient quand il y a une question de pouvoir et une question de domination entre. Alors là, on parle des violences conjugales, donc majoritairement, on parle de femmes victimes et d'hommes auteurs. Donc on va rester sur ce cadre-là. Mais effectivement, la violence, elle apparaît quand il y a une relation déséquilibrée. Donc effectivement, les types de violences, ils sont multiples.
Un autre frein peut-être pour la victime, c'est le coût. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la question a été posée du coût des avocats. Vous avez des informations là-dessus? Ce n'est pas le cœur du CIDFF, mais peut-être que vous avez des échos.
Alors, nous, dans l'accompagnement sur l'aspect juridique, donc on a la juriste du CIDFF qui reçoit les victimes si elles le souhaitent et qui va les informer sur le fait qu'effectivement, une victime peut être représentée donc par un ou une avocate dans le cadre des procédures judiciaires. Et qu'en fait, l'aspect financier ne doit pas être un frein. C'est-à-dire que la victime, en fonction de ses ressources, peut demander ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. C'est un document, un CERFA qui a à remplir, sur lequel on atteste des ressources, on fournit des documents administratifs, comme dans toute démarche en France. Et ensuite, le bureau d'aide juridictionnelle rattaché au tribunal va étudier la situation. En fonction des ressources, ça peut être une aide juridictionnelle dite totale. Ça peut être une aide juridictionnelle partielle, ou alors si les ressources de la personne sont trop élevées au regard des ressources pour bénéficier de cette aide, à ce moment-là, les frais d'avocat seront à la charge totale de la victime.
Donc il y a un coût qui peut être pris en charge grâce à des aides, un coût dans tous les cas pour les victimes. On parlait de la solitude, on va en reparler. Je pense qu'il est temps dans cette émission de répondre à la toute première question qu'on a entendue au début de cette émission, qui était: combien de plaintes amènent à une condamnation? Alors on a le chiffre, 86% des affaires traitées entre 2012 et 2021 ont donné lieu à un classement sans suite, contre 14% qui ont entraîné des poursuites. S'agissant des violences conjugales, c'est 72% des affaires qui ont été classées sans suite pour 28% de poursuites. Alors, tout le monde dans la salle lors du 25 novembre était d'accord pour dire que c'est peu. Et par ces réactions, on atteint un point dans la discussion, donc ce soir-là, où des critiques émergent sur justement cette prise en charge, la considération par la justice, la loi, la police. Je vous propose d'écouter déjà un témoignage sur les limites de la procédure par une femme dans le public.
Effectivement, je voulais parler de cette solitude et peut-être de cette peur aussi, parce que on le voit aussi dans le film. Effectivement, il y a un dépôt de plainte, mais derrière, la personne, à tout moment, en fait, par vengeance, par colère, pour n'importe quelle autre raison, en fait, elle peut s'en prendre à la victime. Et c'est vrai qu'il y a cette solitude, je pense, qui est difficile. Après un dépôt de plainte, et justement, je m'interroge sur ce manque de protection. Je me demande qu'est-ce qui est dit aux agresseurs et qu'est-ce qui est dit aux victimes suite à un dépôt de plainte par rapport à ces possibilités-là. Et je pense aussi qu'il y a une forme de colère qui gronde par rapport à la loi, ou quand on voit qu'au Québec, depuis les années 90, la notion de consentement, elle est dans la loi et elle inverse le rapport de force. Où là, c'est aux agresseurs de prouver que le consentement a été respecté et non pas aux victimes de prouver que leur consentement n'a pas été donné. Voilà.
Donc il y a déjà beaucoup de choses dans ce témoignage dont on a parlé, la protection. Il y a cette question du consentement au Québec qui est quand même intéressante. Avant de rebondir, je vous propose d'écouter une autre intervention sur ce système judiciaire.
Enfin, moi, je trouve ça important les remarques qui sont dites sur le fait que aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire porter plainte, le fait que en fait, on n'obtient pas réparation après avoir porté plainte, et que c'est une procédure très lourde. Et en fait, il y a plein de personnes qui ne le font pas, mais pour des bonnes raisons, et juste parce que le système judiciaire, c'est un système très froid qui reste très impartial jusqu'à en fait que le procès se passe en fait. Et que évidemment qu'en fait ça, en fait on reste dans un truc très on attend un système de preuves tout le temps, et alors même qu'on vit dans une société patriarcale où on sait que il existe des violences sexistes et sexuelles commises à 98% par des hommes, et c'est important d'avoir ça en tête, et que peut-être on pourrait, ce serait plus pertinent de penser des systèmes, au lieu d'avoir un système très froid qui est aussi juste de la prise en charge des agresseurs, mais d'une manière plus concrète, où on sait que les personnes qui agressent ont agressé, sont auteurs de violences, et on veut pas que ce soit des rebuts de la société, mais comment justement on les implique dans un changement de leur comportement pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Et là, dans le film, ça se passe. Mais dans la réalité, la plupart des auteurs de violences ne savent pas qu'ils sont auteurs de violences.
Là encore, ce sont des sujets dont on les a survolés. On n'aura pas le temps dans cette émission d'en parler. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'était un moment intéressant aussi du débat. Et même, je vous propose, avant d'intervenir, d'écouter la dernière réponse d'Olivier Persicot, qui parle également des limites de la plainte.
Pourquoi il y a un pourcentage aussi faible au niveau des condamnations? D'abord parce que souvent, ces actes-là, de violence ou de viol, sont faits dans des coins restreints, dans des endroits où on n'a pas de témoins, où on n'a pas de vidéo, où on n'a pas forcément d'éléments objectifs. On a aussi des victimes qui se sentent mal, qui ont un certain traumatisme. C'est-à-dire que, là, on ne l'a pas eu dans le cas dans le film, mais on a des victimes qui ont des pertes de mémoire, qui ont oublié certaines choses, qui vont des fois avoir des erreurs dans la chronologie des faits qu'ils vont avoir. Mais ce n'est pas de leur fait. C'est la résultante d'un traumatisme qui aura eu lieu par rapport au temps passé ou par rapport au choc émotionnel qu'il y aura eu. On peut l'expliquer, on peut le comprendre, mais pour condamner une personne, il faut avoir des éléments suffisamment probants pour pouvoir la condamner, cette personne. Et quelque part, heureusement, le code de procédure pénale, il prévoit que la condamnation, en cas de doute, elle se fera pas. Elle est au bénéfice de la personne qui est auteur.
Alors là, on est dans le cas un peu opposé du Québec qui était évoqué auparavant dans le public. Ça vous évoque quoi, vous, par rapport aux expériences que vous avez? C'est la limite de la preuve, finalement. On en parlait rapidement tout à l'heure sur la différence entre le système judiciaire et ce dont il a besoin et la démarche personnelle, la difficulté de la victime.
Mais c'est pour ça qu'on disait aussi tout à l'heure que le dépôt de plainte dans l'immédiateté, c'est pas forcément ce qu'on va conseiller aux victimes. C'est-à-dire que l'idée que le dépôt de plainte viendrait tout résoudre, c'est malheureusement une idée illusoire, puisque ça viendra pas réparer ce qui s'est passé, et si tant est que l'auteur soit condamné, la condamnation ne sera jamais à la hauteur de ce que la victime pourrait imaginer pour être réparée. Donc ça va être aussi tout ce travail d'accompagnement auprès de la victime et avec elle sur quelles sont ses attentes autour du dépôt de plainte. Et il y a les délais de la justice qui sont ce qu'ils sont. On n'a pas de moyen d'agir dessus. Donc ça va être aussi dans cet intervalle de temps, comment on accompagne la victime dans son quotidien et dans l'après-dépôt de plainte. Est-ce que ça va être de quitter le domicile? Est-ce que ça va être de se maintenir au domicile? Est-ce que ça va être de partir en répit quelque temps chez un membre de la famille, des amis, des connaissances? Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va évaluer avec la victime et qu'on va accompagner dans ce qu'elle souhaite mettre en place à hauteur de ce qu'on peut lui proposer. Mais j'ai le sentiment dans les accompagnements que nous proposons aujourd'hui qu'on est quand même en mesure d'apporter quelque chose aux victimes dans cet après dépôt de plainte, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On observe quand même qu'on arrive à rompre ce sentiment d'isolement chez la victime. Et à partir du moment où elle identifie qu'elle n'est plus seule face à ce qu'elle vit, il y a plein de choses qui vont pouvoir se mettre en place en termes d'accompagnement et en termes de début de reconstruction pour elle.
Cela fait écho à la suite de la réponse d'Olivier Persico. Je propose qu'on l'écoute.
Et maintenant, je reviendrai également sur les autres choses, même si c'est compliqué cette procédure pénale et judiciaire. C'est compliqué d'en parler devant un policier ou une policière, si on peut aussi en faire la demande, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas que la police aussi. Et il faut se concentrer vraiment sur la victime. Alors, se concentrer sur la victime, c'est qui ? C'est la police, c'est l'entourage, c'est les témoins. Et c'est effectivement tout le cadre médical qu'on peut avoir, associatif ou social, qui peuvent aider la personne. Il faut aussi que la personne, et c'est dur à dire pour un policier, mais c'est la réalité, ne pense pas qu'en ayant la condamnation de l'auteur, elle va aller mieux derrière. D'abord, on n'est pas sûr de l'avoir, cette condamnation de l'auteur. C'est pas acquis. Et c'est pas parce qu'il est puni de 10 ans de prison, de 20 ans de prison, de 15 ans de prison, qu'on aura été une petite victime, une moyenne victime ou une grande victime. Il ne faut vraiment pas s'attendre à ça, et il y a un gros travail à faire pour la victime en dehors de cette attente judiciaire, qu'on peut comprendre pour autant. Mais il ne faut pas qu'elle mette tous ses espoirs là-dedans. Et on peut très bien dire, je n'ai pas assez de preuves, ce n'est pas pour autant que la personne n'a rien fait. C'est que je n'ai pas assez de preuves pour la condamner, cette personne.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur.
Je pense que c'est important de ne pas oublier que c'est un combat et que les femmes qui mènent ce combat, elles sont seules. Il peut y avoir des structures, il peut y avoir tout ce qu'on veut, quand on a subi, donc moi je parle en tant que victime de viol, de manipulation psychologique, de séquestration sur mineurs, et je pense vraiment qu'on oublie qu'en fait il peut y avoir autant de structures qu'on veut quand tout l'entourage de quelqu'un part parce qu'on a porté plainte, quand notre famille ne nous croit pas parce que c'est des choses qui arrivent aussi. En fait, on se retrouve vraiment seul et on a beau être accompagné. Moi, j'ai rencontré les structures médiaviques, ce genre de choses. Et en fait, c'est trop pour ces structures. Les trois quarts du temps, on va vous dire que bah oui, bah il faut aller porter plainte et trouver un avocat. Et bah, bref, tout ça pour dire que je trouve que ce qui a manqué dans ce film, c'est peut-être la reconnaissance du courage de la victime. Et quand on porte plainte, la vie, elle change pas derrière. On se retrouve dans le même quartier avec les mêmes personnes autour, avec la même ordure qui vous suit dans la rue et qui va venir saccager votre maison. Donc en fait, le dépôt de plainte, il change pas une vie du tout. Et c'est ce qu'il disait monsieur le policier, c'est que on a beau avoir une condamnation derrière, même si ça prend moins de temps que ce qu'on s'imagine parce que ça allait très vite, machin, tout ça, notre vie, elle change pas et on restera traqué par les mêmes personnes. Et du coup, j'aimerais bien donner un petit peu d'espoir à toutes ces femmes qui se disent que c'est impossible. Quand on se bat, obtenir réparation, c'est possible. Mais ça coûte 10 fois plus cher que n'importe quel autre homme qui porterait plainte contre ça.
Alors, un témoignage poignant qui est arrivé vers la fin de la discussion, donc qui reprend des choses dont on a parlé. Vous parliez, Julie Moulin, de l'accompagnement par des associations. Vous, ce que vous faites, là, cette femme dit qu'il y a quand même des limites à ça aussi. Une réaction ?
Je pense que effectivement, ce témoignage, il est très important parce qu'il vient mettre en lumière aussi les limites de ce que l'on peut proposer. Et il vient mettre en lumière le fait qu'on a beau être autour et vouloir essayer de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, particulier, association, etc. Si c'est pas le bon moment, si la victime est pas en mesure de s'en saisir, il se passera rien pour la victime. Après, je connais pas l'histoire de cette femme. Ce qu'on essaye de faire dans notre accompagnement au CIDFF, c'est de montrer, de démontrer qu'on est là, que ce soit maintenant, que ce soit demain, dans une semaine, dans 3 mois, dans 1 an. On a des victimes qui reviennent 1 an, 2 ans après le dernier contact avec notre service. Et même si ça ne vient pas réparer, ce n'est pas magique, mais je pense que dans notre accompagnement, le fait d'être fiable, le fait de rester présent, d'être dans le non-jugement, de respecter la temporalité de la victime, j'ai bon espoir de croire que ça participe quand même à aider la victime dans son parcours de reconstruction.
Et sur ce parcours de reconstruction, il y avait une question dans le public sur le suivi psychologique. On écoute ça.
Juste sachant que la plainte, elle n'aboutira pas forcément à des dédommagements, est-ce qu'il y a des psychologues qui sont mis, par exemple, à disposition dans des associations pour les victimes de violences ou viols? Ou pas du tout.
Il n'y a pas eu de réponse claire. Est-ce que vous en avez une à apporter ?
Alors, je peux apporter une ébauche de réponse, c'est-à-dire que dans les associations, donc type Mediavic, pour les associations d'aide aux victimes, ou nous au sein du CIDFF, on trouve des psychologues qui sont gratuits et qui sont à destination, notamment au CIDFF, donc à destination des victimes de violences. Alors, avec une petite précision, c'est que ce travail avec la psychologue n'a pas vocation à être un travail thérapeutique au long cours. C'est-à-dire que nous, ce sont des consultations avec une psychologue pour travailler à l'instant T la problématique que la victime aura identifiée. Voilà. On n'a pas assez de temps de psychologue pour proposer un travail thérapeutique au long cours. Par contre, la collègue va pouvoir orienter par la suite vers les psychologues du département. Donc ça peut être sur le centre de santé mentale, ça peut être au niveau du CAC, le centre d'accueil et de consultation, ça peut être aussi vers des psychologues en libéral, sachant que maintenant on a un nouveau dispositif qui existe en France avec mon parcours psy qui permet donc une prise en charge par l'assurance maladie.
J'avais demandé si tout
consultation gratuite, enfin prise en charge du du coup par l'assurance maladie, ouverte à tous, qu'on ait été victime de violence ou pas d'ailleurs. Il y a un site internet, on remplit la commune ou la région, ou le département pardon, sur lequel on recherche, et ensuite ça nous indique quels sont les psychologues qui sont rattachés à ce parcours. Donc voilà, des réponses psy, on va pouvoir en proposer, avec les limites aussi du, des disponibilités et la réalité du territoire à ce niveau-là.
Et pour finir, alors tout cela, tout ce dont on a parlé, c'est quand il y a déjà eu violence. Il y a quand même une question qui est arrivée au cours de cette discussion sur la prévention. Ce qui se fait en amont, et c'est une question du public, notamment sur la prévention dans les écoles.
En tant qu'ancien enseignant, j'avais cru comprendre qu'il y avait un programme d'éducation à la vie affective et sexuelle dans l'éducation nationale. Alors je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, quel est le constat que vous faites de cette approche, et si vous, en tant qu'associatif ou en tant que policier, vous intervenez dans l'éducation nationale.
Et donc, deux réponses ont été apportées. Marion Malfatto, du Centre de santé sexuelle, et Zoé, du planning familial.
Donc, le Centre de santé sexuelle, là, on intervient dans les établissements du Nord département, mais on arrive seulement à faire des séances en quatrième et en troisième, parce que il n'y a pas suffisamment d'argent pour embaucher un personnel suffisant pour intervenir dans tous les niveaux. Et il y a aussi peut-être un manque de personnel formé aussi. Donc petit à petit, dans les établissements, il y a aussi des professeurs qui se forment et voilà, qui peuvent proposer aussi des séances. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est bien en deçà de ce qui est prévu dans la loi. Et malheureusement, parce qu'après, on voit les conséquences que ça entraîne et c'est assez dramatique.
J'ai l'impression qu'on n'est pas assez et qu'il faudrait vraiment beaucoup plus d'intervention et vraiment une culture de cette éducation. Et comme c'est posé donc dans l'éducation nationale, et aussi ce qui serait mieux, c'est que ce soit intégré vraiment au programme et que les professeurs, en fait, au-delà de quelques interventions, même si déjà il y en aurait plus, ce serait super. Et du coup, si ces programmes sont vraiment intégrés, on sait que ça marchera mieux. Et aussi, hors éducation nationale, il y a des structures et il y en a des centres sociaux ou d'autres accueils qui peuvent, en fait, et si des équipes sont motivées et pensent que c'est important, peuvent contacter et mettre le budget qu'ils et elles ont dans ces sujets-là en faisant intervenir des personnes formées. Et il y a aussi des professeurs à qui ça tient à cœur et qui vont aussi se mobiliser pour faire venir des intervenants, intervenantes formées. Donc c'est important, il y a un rôle aussi des gens dans les structures, même si bon, pour l'éducation nationale, c'est peut-être plus compliqué, etc. Mais voilà, enfin, je pense que c'est important de porter ça, quoi, et de défendre que c'est important et de décider de mettre du budget pour créer une culture du consentement et contrer toute cette culture du viol, quoi.
Alors, plusieurs choses dans ces réponses. Il y a donc déjà quand même des interventions et c'est prévu dans la loi qu'il y ait de l'éducation à ces questions sexuelles et de violence, alors.
Alors oui, effectivement, tout à fait. C'est effectivement prévu dans la loi. Après, je rejoins un peu le constat qui est fait également. C'est la question du budget et des finances. Puisqu'effectivement, nous, au sein du CIDFF, on intervient dans le cadre éducation nationale, mais pas que. Donc on intervient aujourd'hui sur GAP, en niveau collège-lycée. Dans quelques semaines, là, on va commencer également au niveau de certaines classes de maternelle et de primaire. Malheureusement, la réalité fait qu'on ne parvient pas à couvrir tous les établissements scolaires de toutes les communes. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que économiquement, matériellement, on ne peut pas.
Vous ou les établissements ?
Les établissements doivent dégager des budgets pour ça. Après, certains établissements, on était déjà intervenu l'année dernière. On revient pour la deuxième année, donc ils ont pu répondre à des appels à projets, etc. D'autres établissements ont entendu ce qu'on avait fait dans, dans, sur d'autres lieux et demandent voilà, à ce qu'on puisse intervenir. Maintenant, il y a une réalité, c'est que ça a un coût, ça mobilise des équipes. Quand les professionnels sont ce qu'on appelle en sensibilisation, donc à la rencontre des élèves, elles ne sont pas sur le service dans l'accompagnement pour les victimes. Voilà, il faut toujours jongler entre les deux. Par contre, là où je rejoins également ce qui a été dit, c'est que l'aspect prévention, effectivement, on y croit. C'est pour ça qu'on essaye de se mobiliser à hauteur de ce qu'on peut. On va adapter nos interventions, bien évidemment, en fonction de l'âge. Et on va proposer aussi des interventions à destination des parents avec enfants. C'est-à-dire qu'on se rend compte que sous couvert d'aller à la rencontre des plus jeunes sur cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes, la question des stéréotypes de genre, on a accès dans ces moments-là aux parents et on peut aussi venir sensibiliser le parent sur cette question-là, là où si ça lui était, c'était destiné aux parents en première attention, il ne serait pas forcément venu.
On touche encore un autre aspect, on pourrait ouvrir et créer une nouvelle émission sur ces questions-là. Mais je vous propose qu'on s'arrête ici. On a déjà évoqué beaucoup de sujets, qu'on clôture cette émission. On parlait d'un appartement à Briançon, donc un logement pour des femmes qui ont subi des violences. Il en existe aussi à Gap, que vous co-gérez à le CIDFF. Peut-être un mot dessus ?
Depuis décembre 2023, le CIDFF donc, gère trois appartements qui sont des appartements donc, à destination de victimes de violences avec ou sans enfants, dont l'adresse est tenue secrète. Donc, ces orientations vers les appartements sont faites via le 115, donc dans le cadre d'une demande de mise à l'abri. On est dans le cadre de l'hébergement d'urgence et c'est pour compléter l'offre qui existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, majoritairement, les personnes victimes de violences, quand elles quittent leur domicile, vont être orientées vers des hôtels, ce qui n'est pas forcément toujours adapté parce que pas de cuisine, pas de frigo, parce que c'est exigu, parce que c'est, quand il y a des enfants notamment, c'est très éloigné de la vie quotidienne habituelle. Et donc là, on a donc ces trois appartements qui sont des logements meublés, ce qui permet à la victime d'arriver, de s'installer et de retrouver un mode de vie avec des gros guillemets plus classiques. Voilà. Et on propose donc cet accompagnement, c'est-à-dire qu'on va deux à trois fois par semaine au domicile rencontrer la victime et les enfants, quand il y a des enfants, en complément de ce qu'on pourrait proposer dans le cadre de l'accompagnement aux victimes de violences.
Et pour l'accompagnement victime aux violences, comment on vous contacte, où est-ce qu'on vous trouve, le CIDFF ?
Alors, le CIDFF a son siège qui se trouve au 2A Passage Montjoie, à Gap. On intervient également sur une grande partie du département dans le cadre de permanences, que ce soit des permanences juridiques, donc assurées par la juriste du CIDFF pour toute question de droit, dans tous les domaines du droit. Et des permanences dites permanences violence, où là, donc, la personne qui se déclare victime de violence peut être reçue par une accompagnatrice victime de violence. Les permanences, comme les rendez-vous au niveau du siège à Gap, se font donc sur rendez-vous. Il ne faut pas hésiter donc à nous contacter au 04 92 55 33 98. Et également, ne pas oublier que de 9h à 17h, donc au 2A Passage Montjoie, nous avons ce qu'on appelle un accueil de jour. Donc, vous pouvez venir sans rendez-vous et vous serez reçu par l'équipe du CIDFF.
On remettra toutes ces informations sur le site de Fréquence Mistral avec des ressources. Et vous pouvez trouver également sur la page Fréquence Mistral Gap une émission en partenariat avec vous, le CIDFF, qui reprend toutes vos missions dans le détail. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, on peut retrouver tout cela. Pour finir, pour clôturer ce temps, je vous propose d'écouter le mot de la fin de la discussion qui a eu lieu à l'Eden Studio. Mot de la fin par Olivier Persicot, donc plaintier enquêteur au commissariat de police.
Quoi qu'il arrive, essayez de prendre un maximum d'éléments. Et surtout, si vous êtes témoin aussi, c'est important de se rapprocher de la victime, de lui parler, d'aller dans son sens, de savoir exactement ce qu'elle attend, comment on peut l'aider. Et pas forcer, pas braquer, parce que finalement, forcer et braquer, c'est ce que fait déjà l'auteur. Donc si vous avez des proches que vous pensez qui sont victimes de violences, ce genre de choses, encore une fois, ne leur forcez pas à faire quoi que ce soit, parce que c'est déjà ce qu'ils subissent de l'autre côté. Donc, soyez dans la proposition, soyez dans le dialogue, soyez un peu plus ferme, on va dire, sur le recueil des éléments, donc d'aller voir un médecin, de prendre des photographies, des violences, ce genre de choses. Et puis après, on est là pour aider ces gens-là, quel que soit le parcours. Encore une fois, je suis policier, donc moi, j'invite au dépôt de plainte. Mais il y a d'autres solutions et il faut s'aider par tous les moyens. L'essentiel, c'est que les victimes aillent mieux. C'est l'objectif pour moi.
Et vous, Angélique Lambert ou Julie Moulin, un mot de la fin, peut-être ?
Effectivement, on rejoint les propos tenus par ce monsieur. Ne restez pas seul. Si vous avez le moindre doute sur votre situation ou celle d'un proche, ne restez pas seul non plus. C'est-à-dire que au CIDFF, nous, on reçoit également des personnes qui se questionnent sur ce que vit un membre de leur famille, un ami, voilà. Et notre écoute et notre disponibilité seront les mêmes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et si vous n'êtes pas sûr, on vous aidera à faire le point sur la situation et on vous réorientera en fonction des besoins qui auront été identifiés. Donc vraiment, ne restez pas seul, victime et ou témoin, allez demander de l'aide et n'hésitez pas.
Merci pour ce mot de la fin. Merci Angélique Lambert et Julie Moulin, dont vous êtes respectivement directrice du CIDFF et coordinatrice Pôle Violence. Merci d'avoir donc répondu à cette invitation.
Merci. Merci à vous.
Et merci au planning familial, Clara et Zoé, à Marion Malfatto du Centre de santé sexuelle de Briançon et à Olivier Persicot, enquêteur plaintier et agent de prévention au commissariat de Briançon, qui sont donc les trois personnes que vous avez entendues répondre aux questions à l'Eden Studio, que nous remercions également, ainsi que le Centre communal d'action sociale de la ville de Briançon, le Centre social intercommunal du Briançonnais. À toutes celles et ceux qui ont été dans le public, merci également pour vos témoignages, vos questions ce 25 novembre et à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Bonne journée à toutes et tous.